Bonjour à toutes et à tous. Au menu du magazine de la moto, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec nos motards engagés. On commence avec Christophe. Christophe Tillemant qui nous propose chaque mois un aperçu du sommaire du Moto Magazine, le mensuel destiné à suivre l'actu motocycliste, notamment dans le domaine de la sécurité routière et de la pratique quotidienne de la moto. Christophe, bonjour.
Début novembre, numéro de novembre. Alors, on l'a reçu, je vous rappelle que depuis quelques mois, on le reçoit plutôt il y a 15 jours. Mm-hmm. Et il y a une coïncidence troublante là. Vous avez vu l'édito ? Vous avez dit partage ?
Oui, j'ai vu l'édito, c'est grave.
Quasiment le jour où je le recevais, il y a un cycliste qui se faisait écraser à Paris. Ouais. Et c'est exactement le sujet. Alors, moto, vélo, piéton... vous savez mon côté cycliste
deux roues
motorisé et non motorisé et automobile effectivement et malheureusement on voit cette dérive aujourd'hui de violence routière.
Sur la route rien ne va plus ça c'est l'édito de Pierre-Henri
donc je vous laisserai le soin de le découvrir mais c'est on ne peut plus actuel mais alors il y a des codes de la rue qui ont été sortis là très récemment pour les piétons et les cyclistes mais c'est pareil on peut aura toujours trouvé parmi les cyclistes ou les motards des gens qui respecteront pas les règles et c'est pareil pour les piétons et les automobilistes. Mais de là en arrivé, ce qui s'est passé, effectivement, c'est particulièrement dramatique.
Alors, le problème, c'est que les trottinettes et les vélos n'ont pas de permis. Donc, ils se sentent en totale impunité par rapport à ceux qui ont un permis que l'on peut retirer.
Ils n'ont pas de plaque d'immatriculation.
Hier, 56 km/h en trottinette dans l'île.
56 km/h. Boosté, c'est l'heure.
Bon, absolument. Alors, le sommaire.
Le sommaire, Christophe.
Alors, j'étais en train de regarder un peu ce qu'il y avait sur la table qui venait de Chine. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Alors, ça tombe bien. Il y a un gros sujet que Philippe Guillaume donc, a traité. Voyage en Chine pour comprendre l'économie du pays. Et donc, je vous propose de parcourir les pages de Moto Magazine avec une enquête qu'il a menée. Sans langue de bois, il faut lui reconnaître quand même cette qualité. Et puis des essais de moto made in Chine, mais même ce qui est siglé européen, quelquefois, on serait surpris.
Compliqué de faire une enquête là-bas en Chine. Apparemment, j'ai lu l'article. Au début, il dit écoutez, j'ai fait ce que je peux. Pour avoir de l'information, c'est pas facile.
Faut pas oublier que c'est une dictature quand même.
C'est pas vraiment une dictature. Voilà.
Donc c'est effectivement le cœur de Moto Magazine. On commence donc par aussi l'actu. Alors l'actu que je partagerai avec Jean-Yves et puis notre invité, le contrôle technique bien sûr, la manif qui s'est déroulée, les interfiles qui évoluent lentement mais qui évoluent.
Alors l'interfile à Paris, c'est compliqué.
Le 50 km/h parce que je rappelle que depuis un mois, vous êtes passé actuellement récemment.
Jamais, je boycotte Paris.
Moi j'ai quelqu'un de ma famille qui est arrivé. Qui respectait le 50, mais il se fait talonner.
Il se fait pousser au cul.
Et le comportement, effectivement, des motos et des scooters sur le périph par rapport à l'interfile, là, je demande à voir comment ça va se passer. Donc, effectivement, il y a ça.
Oui, il y a une enquête de CEREMA, d'ailleurs, disant qu'il y a moins de morts qu'on aurait pu s'y attendre.
On en parlera tout à l'heure. Vous savez que j'aime bien la photo légende, donc je reviendrai sur deux photos qui ont honoré donc, des choses qui se sont passés sur le circuit Bugatti au Mans. Et puis Tom Pagès, qu'on connaît bien.
Il fait du parapente maintenant. Il a changé de discipline. Il n'a pas tout à fait changé de discipline. Il fait du parapente avec sa moto.
Alors, je vous donnerai, le lien, enfin le lien tout au moins, dans le moteur de recherche pour aller voir l'explication du tournage du film qu'ils ont fait. Parce que le film, avec le QR code que vous avez dans le mag, il dure une minute. Donc, c'est quand même assez bref. Mais lui, il a travaillé 3 ans dessus. Et après, il y a les prises de vue. Donc, c'est intéressant de voir le making-of. Donc, je vous parlerai de ça. Et puis, pour terminer, donc, une séquence consacrée à une belle opération, la 15e du nom, donc, sur Ostet. Alors, on parle beaucoup d'Ostet en ce moment. Mais là, on va voir donc, une opération de solidarité pour les vétérans par rapport à la moto. Et donc, je vous parlerai de ça.
C'est l'insertion.
C'est surtout
la réhabilitation.
Je ne sais pas si vous avez connu des gens qui ont pratiqué des guerres en Afghanistan, en Iran ou ailleurs. Moi, j'ai connu un jeune dans ma commune qui avait fait le Kosovo. Je peux vous dire qu'il garde des séquelles. Ouais. Et donc, on peut comprendre que, d'ailleurs, c'est dit dans l'article, ils ne veulent pas trop en parler.
Donc, se reconstruire en construisant une moto. Et voilà.
Absolument. Et je terminerai, bon, c'est la saison des salons. Et donc, j'ai feuilleté un petit peu le mag. Chaque mois, il y a une quinzaine de motos qui sont présentées. Donc, je vous donnerai quelques repères sur des évolutions de marques et de machines pour l'année 2025.
Très bien.
Voilà. Et j'oublie
un invité,
parce que malheureusement, Dan n'est pas là aujourd'hui pour nous parler de la custom culture. Donc, je vous propose, j'ai repéré Patrice, donc propriétaire d'un scooter qui a attiré mon attention à un scooter sorti de grange, un Mobi scooter. Il ressemble à une Vespa, il ressemble à une Lambretta, mais c'est français.
Eh ben c'est pas grave, s'il veut pas parler de custom culture, Daniel, nous on va parler de culture vintage.
Voilà.
Avec Patrice.
Complètement. Et donc ce scooter qui est dans sa 70e année.
Oui, enfin, incroyable ça, 70 ans de scooter. Voilà. Bon, allez, merci Christophe. Ben, on continue ce tour de table avec Jean-Yves Balois, le porte-parole de la Fédération française des motards en colère. Jean-Yves, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça va être un sujet assez enflammé aujourd'hui.
Non, pas forcément.
Ce sera le compte-rendu de la réunion du 12 octobre. Et ça a laissé apparaître des dissensions. Et donc, c'est là que la raison de la présence de notre troisième invité.
Voilà, on va le présenter, c'est FX. Bah, tout le monde connaît FX. Bonjour, FX.
Bonjour
voilà,
à tous.
Tu voulais participer à l'émission parce que tu as participé à cette réunion du 12 octobre. Hein, et il y a des gens qui n'étaient pas d'accord sur les propos du président de la FED 59. Hein.
Non. Effectivement,
hein, et toi, t'étais pas du tout d'accord. C'était même très chaud comme conversation.
C'était assez virulent.
Pas dire, c'était une conversation à la fin.
Non, voilà. Pas vraiment.
Bon. Voilà, donc Jean-Yves, on continue le sommaire.
Il y a des nouvelles de la CIF, d'infrastructure. Enfin, il y a quand même des choses positives qui sont retirées de cette réunion. Donc, on en parlera plus en détail tout à l'heure.
Très bien, merci Jean-Yves. Voilà, vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 ou www.campuslille.com. On vous rappelle que cette émission vous est proposée par l'association des motards de Kikinkout et Toupal. À la technique, on salue notre pilote d'émission, Laurent. Et on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. A tout de suite. Bon, Christophe, on commence ce sommaire, un aperçu du sommaire du Motomag du mois de novembre avec les meules bleues.
Oui, alors le Grand Prix Meules Bleues. Alors Grand Prix, oui, bah, je parlais tout à l'heure du circuit Bugatti du Mans. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui a été créé par un entrepreneur il y a 10 ans en Vendée pour animer un petit peu le monde de l'entreprise. Et donc il avait organisé une première édition sur laquelle il y avait eu 1000 participants et 150 mobs. Et ils ont vite basculé vers plus grand. Et puis ça a été Noirmoutier, L'Île-Dieu, les Champs-Élysées pour finir donc sur le circuit Bugatti en 2017 et en 2019. Donc là, c'était le premier rendez-vous d'avant Covid, après Covid plutôt. Et 550 engins. Et c'est la photo qui est assez sympathique, puisque tous les pilotes sont affublés d'une cape or et d'un casque de jet or.
Pour les éditeurs et auditrices qui ne savent pas ce que c'est qu'une meule, c'est une mobilette, c'est une bleue. Hein.
Une bleue.
On dit meule, c'était la meule.
La
on précise quoi.
La mobilette.
Nous, on est des vieux, on sait tout, mais les jeunes, peut-être qu'ils ont pas forcément notre...
Par Motobécane, et ici, dans la région, puisque à Saint-Quentin.
À Saint-Quentin,
je vous engage vraiment à aller visiter le musée si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y mettre les pieds. Donc voilà, donc vous verrez cette photo, une photo, une légende en quelque sorte. Une autre photo, j'en parlais tout à l'heure, Tom Pagès, qu'on connaît bien, puisqu'il honore Pécancourt, il honorait, je ne sais pas s'il vient encore, mais depuis des années donc à Pécancourt, qui détient quand même dans sa discipline freestyle des figures particulièrement abouties. Alors il avait fait à Voriage, je ne sais pas si vous vous souvenez, un double front flip. Et là, il voulait faire un saut en parapente avec sa moto. Ce qu'il avait fait, en fait, à Avoriaz, il n'avait pas pu le faire avec la moto. Il voulait rester sur la moto. Là, il avait deux parachutes, pour lui et un pour la moto. Ici, pour donc, le saut qu'il a effectué, sponsorisé par une grande marque de boissons dont je tairai le nom. Mais vous le verrez quand vous aurez tapé le QR code. Et donc, il a préparé pendant 3 ans ce vol. Donc en parapente, il a fallu qu'il apprenne le parapente, ce qui n'était pas son truc. Donc je vous invite vraiment à voir...
Et mettre des bretelles pour tenir la moto.
Absolument. Donc il a fallu trouver l'ajustement.
Oui, parce qu'il faut tenir la moto. Hein. C'est pas tout de...
Et vous verrez dans le making-of qu'il faut croire que les constructeurs, ils avaient tout prévu. Parce que les mousquetons, ils ont trouvé leur place sans avoir eu à faire des pièces spécifiques. Donc je vous invite à aller taper dans le moteur de recherche « Fly and Ride ». Tom Pagès, et vous tombez quasiment dessus. Donc il a été interviewé par France TV Sport et il explique tout son parcours. On voit qu'il commence un peu à se ranger. Hein. Il prend de l'âge, il se dit on devrait peut-être arrêter. Bon,
c'est vrai que quand on regarde la photo, ça paraît simple.
Absolument.
Ah, mais par rapport à sa moto.
La photo et même la minute de vol, avec, parce qu'en fait, il vole, mais il roule. Il survole le sol, donc il décolle, il recolle le sol, si on peut dire, ainsi de suite. Donc c'est vraiment, évidemment, dans un magazine, ça ne transparaît pas beaucoup, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir le making-of. Sujet d'actu, ce dont nous parlions tout à l'heure, effectivement, il y a eu cette manif donc, des 21 et 22 septembre, dont Jean-Yves, tu reviendras dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que clairement, c'est un des sous-titres « On ne lâche rien ». Donc, on en parlera tout à l'heure avec Fix par rapport à la réunion, effectivement.
Alors là, on ne lâche rien au niveau national.
En région.
Mais ce n'est pas du tout le discours ici dans la région du Nord. C'est un coup de neuf toujours.
Ce qui est plus intéressant, c'est de revenir sur les statistiques. Parce que hors antenne, tout à l'heure, micro, on parlait des statistiques de défauts. Donc, justement, il y a des enquêtes qui ont été menées. D'abord, une montée en puissance des contrôles. Mais ça, bon, on pouvait un peu s'y attendre. Hein, parce qu'il n'y a pas que les motos, tous les cyclos, qui ne sont d'ailleurs pas les premiers à se présenter. Alors on peut penser, et c'est ce qui est dit dans l'article, que c'est l'âge, je dirais, des propriétaires qui fait que, donc, il va y avoir une communication auprès des parents pour effectivement insister sur la sécurité routière, pour amener effectivement leurs enfants et leurs rejetons à aller passer le contrôle technique.
Bah, il y a aussi... Déjà, il faut les immatriculer. Il y a encore beaucoup de mobilettes qui ne sont pas immatriculées.
Et puis, il y a tous les quadricycles. Les voitures sont permis. Enfin, je regardais donc le pourcentage, le taux de refus actuellement en moto, c'est 1 sur 10. Par contre, en cyclo, c'est 1 sur 5. Bon, et ce n'est pas les plus représentatifs, parce que je vous dis, au niveau de la présentation au contrôle technique, ils sont peu représentés. Les voitures sans permis, c'est 1 sur 3. Donc, on croit qu'il y a beaucoup de caisses à savon ou de pots de yaourt qui tournent, qui ne sont pas dans les clous. Et puis, on évoquait aussi le taux de défaillance. Donc, en défaillance majeure, la première défaillance majeure, c'est la plaque d'immatriculation non conforme.
Oui.
Question sécurité,
ah oui, c'est
effectivement,
c'est
essentiel.
C'est très grave.
Ça sauve des vies.
Ah, voilà. Ça, là, la plaque, elle sauve des vies. Ça, c'est sûr.
Après, bon, les c'est émissions, très important pour les la émissions sécurité. De polluants, mais si votre moto est d'avant, je ne sais plus quelle année, elle ne passe pas le contrôle, puisque de toute façon, il n'y avait pas d'identification sur la carte grise. Bon, les suspensions qui fuient, mal fixées, les faux stops défaillants, t'en parlais tout à l'heure, fixe. Mais surtout, les défaillances critiques qui relèvent de la marginalité, mais quand même 0,05% par rapport aux gens qui sont présentés. Mais c'est quand même un cas d'arrêt de la moto. Normalement, je crois qu'elle ne peut pas rouler plus de 24 heures, me semble-t-il.
Oui, oui, c'est...
Voilà.
Donc, défaillance sur les freins. Chez toi et d'aller chez
et bien sûr, sur les pneus, pneus craquelés ou pneus lisses.
Bah, lisses, oui. Faut vraiment être con pour aller au contrôle technique avec des pneus lisses, bon, mais ça existe.
On en saura plus sur le contrôle technique tout à l'heure avec la séquence de Jean-Yves, mais vous avez déjà donc dans le mag un topo assez précis avec donc des statistiques
alors,
intéressantes.
T'imagines, on parlait des meules alors, bleues tout à l'heure au Mans là.
Oui.
Il y avait 550 mobilettes. Qui normalement doivent faire le contrôle technique, passer le contrôle technique.
Bah,
70
être,
balles.
Et être immatriculé.
Alors, ça vaut le coup quand même. Hein. T'imagines, on fait quoi sur
les
un contrôle technique
ouais. Les collectionneurs, parce qu'on en connaît quand même dans nos groupes, hein, nos réseaux, effectivement, ça leur fait quand même un sacré budget. Hein. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir, comme en assurance collection, des tarifications particulières.
Tarifs groupe.
Alors, peut-être. Non, mais peut-être.
Non. Il ne faut pas espérer des imbéciles qui nous gouvernent de faire des trucs intelligents.
Bon, je termine donc le sujet sur l'actu. La circulation interfile, donc je l'ai dit tout à l'heure, une évolution. Alors, on fait partie des 21 départements test. Hein, donc, tu parlais du CEREMA. Alors, le CEREMA, c'est Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.
Voilà. C'est grâce à eux aussi que, normalement, on peut attaquer toutes les municipalités pour leurs ralentisseurs illégaux.
Voilà. Et donc, on fait partie des 21 départements test qui sont aujourd'hui expérimentés. Et l'expérimentation qui devait s'arrêter le 14 septembre est prolongée jusqu'à la fin de l'année.
Bah, il paraît qu'il n'y a plus personne au gouvernement. Donc,
il n'y a plus personne pour signer. Voilà, quoi que ce soit.
Ah oui, alors, monsieur, ils sont encore là. Ça y est, ça aurait...
Non, ils
avec quand même, on parle de l'interfile, mais il y a quand même une dizaine d'items qui régissent l'interfile, et notamment sur son application, sur des routes qui sont limitées, sont au-dessus de 70.
De
70 et au-dessus.
Donc bon. Le périph' parisien,
exactement.
Il
n'y
aura plus d'interfile.
Et sur des routes donc à deux fois deux voies, autoroutières ou voies rapides.
Avec
comme,
séparation centrale.
Enfin, voies rapides. Est-ce qu'on peut parler du périph' comme une voie rapide?
Bon. Ben ça devrait l'être, si c'était fait intelligemment. Mais
alors, on rappelle pour ceux qui n'auraient pas encore mis leur roue à Paris, depuis le 1er octobre, la périphérique est limitée à 50 décisions d'Anne Hidalgo.
Oui,
contre l'avis du préfet de police, qui normalement a son mot à dire.
Contre l'avis de la
région. Le ministère d'Intérieur, de France, le Premier ministre, le ministre des Transports. Donc on peut penser que ça va discuter. C'est quand même le préfet de police.
Elle va avoir des problèmes, cette bonne femme-là.
C'est quand même
femme-là,
le préfet de police qui définit le niveau auquel il met les radars. Donc ça serait un comble que les radars restent à 70 alors que la limitation elle est affichée à 50.
Ben non, ça serait bien.
c'est pas un comble, Christophe, c'est très bien comme
oui,
ça.
Oui, non, mais ça, tu le sais pas... que si tu le fais flasher. Voilà. tu roules à 60. Voilà. Bon, donc...
Non, mais il y a tous les OAS, les machins qui te disent à combien tu dois rouler. Alors,
quand ils sont à jour, c'est pas le cas.
Et alors, que dire des cyclos? Parce que finalement, les cyclos qui sont bridés à 45...
Bah, finalement, ils peuvent prendre le périph'.
Ouais, ils pourraient presque prendre le périph'.
Ah oui, même les voitures sans permis.
C'est justement ça qui est mis en avant par l'ancien ministre Clément Beaune, qui dit que au niveau sécurité, les écarts de vitesse peuvent effectivement nous poser des soucis. Voilà la miche.
Très bien, allez, on passe à un morceau de musique. Je te propose. Hein.
Oui, je prends.
Et on se retrouve juste après.
Oh.
Bon, Christophe, on part en Chine aujourd'hui dans le magazine de la moto sur Campus Lille.
Oui, alors un dossier, je disais tout à l'heure, Philippe Guillaume, le journaliste, qui d'entrée dit qui fait quoi, qui est qui, une enquête qui lève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et là, effectivement, comme il dit, je me suis pris un mur. Il a rencontré une douzaine d'interlocuteurs et on ne peut pas dire que la transparence soit le plus fort
Chine,
de cette région
après,
du monde.
Voilà.
Hein, et donc, effectivement, on connaissait... À titre comme ça, vous avez des marques, si je vous demande de me citer des marques comme, qui vous viennent.
Mâche. Bon,
Mâche, oui. Alors, c'est français, mais évidemment, dont on sait l'origine des
produits. Attends, comme j'ai le Motomac devant les yeux, là, je vais
te dire... Non, mais des marques chinoises.
CF
Moto, bien
CF
sûr.
CF Moto, allez.
Hein, QG Motors. Et puis, tu me parlais de Mâche.
Car, mais c'est imprononçable.
Oui, tout à fait. Bon, et qu'est-ce qu'elles ont comme point commun, ces motos?
C'est pomper sur des modèles existants.
Bah, elles
ont une base mécanique qui remonte à une vingtaine d'années, qui est le moteur de la Kawa, donc R6 de 2004. Un bicylindre vertical de 650 cm3 calé à 180 degrés. Et pour lequel les Chinois, effectivement, ont pompé. Alors, ils ont pompé, on parlait tout à l'heure en antenne des transferts de technologie. Les Européens, ils sont allés aussi fabriquer leurs machines là-bas.
Ils ont été assez cons pour faire le transfert de technologie, parce que là, c'était à long terme, c'est un marché perdant.
Voilà.
Dans un pays tyrannique, hein, où l'État fait tout pour soutenir, on ne joue pas avec les mêmes règles de marché.
Et à partir d'un moteur, finalement, ils en ont décliné quelques autres un petit peu améliorés, en changeant des cotes, des choses comme ça.
Des couleurs.
Mais des moteurs qu'on retrouve aujourd'hui chez 5 fabricants chinois ou assimilés, parce que quand on parle de Mâche, en fait, c'est des motos Jedi qui sont vendues par Mâche. Donc 5 moteurs qui sont... Marques qui utilisent un moteur de base et qui sont reprises dans 8 motos différentes, dont le Side dont tu parlais tout à l'heure. Alors on va le retrouver chez Moto Morini sur un trail, on va le retrouver aussi sur des motos plus routières, hein, CF Moto ou des trails, j'en parlais, et ce sidecar. Donc c'est d'ailleurs étonnant quand il interroge Mâche pour poser des questions sur la provenance de la mécanique, etc. Visiblement, on ne veut pas lui répondre. C'est même inquiétant, parce que en termes de sous-traitance, c'est quand même Mâche qui est responsable des machines. Alors ça tombe bien, il nous présente la Mâche 750. Qui est bien née, hein, visiblement, elle arrive sur un marché très concurrentiel. Et ce dossier spécial Chine donc, se consacre à la présentation donc, de cette routière, la Mâche 750. C'est quand même une première pour la marque, hein, puisqu'elle était quand même cantonnée à des moyennes cylindrées. Et puis, le jeu des 7 erreurs qui reprend la présentation de la F900 GS Adventure de BM, et la Vogue 900 DSX. Le jeu des 7 erreurs. Parce que finalement, en y regardant près, clairement, le moteur, le cadre, enfin toute la base, c'est à se demander si ça n'arrive pas directement sur les chaînes de BM de Chine et qu'il reste à BMW à assembler en fait toutes les pièces périphériques.
Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est la qualité des métaux de base. Quand c'était la coopérative Triumph à Méridène, vous aviez les culasses qui faisaient des 8 simplement naturellement parce que l'alliage était pourri. Et en Chine, ils assemblent, ils fabriquent, mais est-ce qu'il y a un contrôle qualité vraiment sur les matières premières? On n'en sait rien.
C'est effectivement ce qu'on pouvait penser et qui était probablement arrivé d'ailleurs dans les années, il y a une vingtaine d'années. Mais quand on voit aujourd'hui, et la présentation d'ailleurs est sans équivoque des motos, qu'est-ce qui reste aux autres, quoi? Parce que finalement, ces motos, elles remplissent parfaitement la mission pour laquelle l'acquéreur en fait l'acquisition. Et au final, il a 7000 euros de différence entre la Vogue
et la BMW. Oui, mais alors,
il
y a le problème aussi du réseau. Hein,
alors, effectivement,
ces motos, justement,
c'est la conclusion de l'article.
Quand on commence l'article... Quand on commence l'article, ces modèles qui nous demandent qu'à envahir les showrooms des concessions. Hein. et avides de... Ils sont privés de, justement de ces grands magasins.
Oui, mais
justement,
ça,
on pourrait éventuellement les voir, les essayer.
Alors,
si,
ils sont pas cons, ils vont mettre à service après-vente. Hein. Pour l'instant, ça démarre, simplement.
On va essayer de trouver un invité un jour pour faire un test achat. Quelqu'un qui aurait une Vogue ou une CF Moto un petit peu ancienne, pour voir aujourd'hui, parce que des concessionnaires, ici, on a la chance quand même sur la métropole lilloise d'en avoir un paquet. Hein. Enfin, il n'y en a pas des tonnes, mais on trouve.
Sur Motocadar, ils avaient fait une expérience longue durée sur une CF.
Oui, là, absolument.
Là, ils doivent être à 40 000 ou 50 000 bornes. Maintenant, il faudrait peut-être qu'ils nous en causent.
Oui, eh ben, ça tombe bien. On va recevoir, j'espère, Philippe Guillaume dans les semaines qui viennent. C'est une question qu'on pourra lui poser.
Tu parlais d'une différence entre un V85 Guzzi, un moto Guzzi, et puis une moto chinoise. Il y avait 7 000 euros de différence.
Non.
Mais il y a aussi l'histoire.
Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Les 7 000 euros, c'est entre la BM et la Vogue. Oui, ça fait l'objet de l'article.
Oui,
je présentais en fait un modèle chinois, un Power Cruiser, qui est motorisé par un 700 cm3 qui rejoint d'ailleurs les mécaniques dont je parlais tout à l'heure et qui au niveau tarifaire se positionne à 12 000 euros. Donc on est dans le tarif de la première V85 hein, qui s'étale je crois entre 12 et 15 000 euros à présent hein, en neuf. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais je vous invite vraiment à lire donc, ce dossier sur la Chine, en particulier l'avis d'un lecteur, Fifi. Alors c'est pas notre Fifi à nous, hein, c'est un autre. donc qui roule en Goldwyn et qui dit 7 000 euros d'écart à prestations quasi identiques, ça en finance de beaux voyages.
Donc, oui, mais pendant combien de temps mais...
Voilà.
Alors, il y a toujours ce doute un peu, là, justement, la fiabilité, le réseau qu'on ne trouve pas forcément partout. Ouais. Parce que tu pars en voyage, d'ailleurs, Christophe, tu dois le savoir, tu tombes en panne. C'est bien de trouver un représentant de la marque, de la moto que tu possèdes.
Oui.
Et là, si tu cherches un.
C'est l'efficacité de la marque.
C'est
l'efficacité de la marque, effectivement, qui garde encore ses pièces. Hein, parce que on discutait Jean-Yves de Triomphe qui, au bout de 10 ans, remise ses pièces et puis débrouille-toi.
Même avant.
Bon, BMW, presque 40 ans après, ils sont encore capables de fournir, effectivement, la durée qui va bien.
Oui, pour des bécanes de 40 ans. Pour des bécanes de 10 ans, 15.
Oui.
C'est moins sûr.
Mais ce que je veux dire, par rapport à la BM et la Vogue qui sont présentées, le moteur, c'est le même. Le moteur, il vient des chaînes de production de Chine. Donc de toute façon, si BM intervient, ça sera les pièces de la mécanique qui aura été montée dans la Vogue. Donc à ce niveau-là, ça ne change pas grand-chose, si tu veux. Alors après, il y a le shifter, effectivement. Le shifter de BM, ce n'est pas le shifter de Vogue. Et là, ça fait la différence.
Donc, 7000 euros le shifter, youpi. Un truc qui ne sert à rien, d'ailleurs.
Après, la notion de réseau, est-ce que les concessionnaires BM verront d'un bon oeil un mec qui se pointe avec une Vogue?
Non, certainement pas.
Non, mais bien sûr.
Bon, voilà. Donc, tu as raison sur ce point-là.
Ces motos ont des prix compétitifs, ça c'est clair. De toute façon, on voit bien. Hein. Mais il y a tous ces problèmes de plateau, de concessionnaires. On trouve, d'ailleurs, à Seclin, où tu sais où il faut aller pour acheter...
Un chinois?
Du chinois?
Ah bah oui.
Oui.
Chez les chinois.
Non, voilà. Donc, non, c'est pas facile, quoi. Et puis, je veux revenir un petit peu sur l'historique des motos. Enfin, une moto Guzzi ou que ce soit même Yamaha ou Honda, peu importe. C'est des marques qui ont des histoires.
Alors, histoires.
Des histoires. Triomphe, c'est une histoire.
Et qui ont innové. Voilà. Parce que c'est ça, tout à l'heure, Jean-Yves le disait, la Chine, pendant des années, elle a copié.
Oui, voilà.
J'ai fait une carrière dans le bâtiment. C'est pareil en moto, hein, j'imagine. Au fond des salons internationaux, il y avait toujours un Chinois pour présenter des produits tout à fait identiques à ce qu'il y avait dans le salon. Hein. Mais c'était remisé au fond.
On peut éventuellement faire un parallèle avec le Japon hein, qui a fait...
Mais ils ont la capacité à innover maintenant, parce qu'ils ont récupéré la technologie. Bon, le temps tourne. Hein. Donc, vous prolongerez en consultant le dossier spécial Chine, page 72 à 92 dans Moto Magazine de novembre. Somebody constantly lying to you. Year after year that you came to finally find out the truth. I would like to know, how did you get to string me out for so long? When I knew, my mama told me right from wrong. I can't believe.
you love holding shit back from you. I would like to know, what would you do when you found out the truth? Year after year, wasting away day after day at a time. Now that I know, how could I be so blind?
I can't be me.
Christophe, après la Chine, on part aux USA, on voyage dans le motoneige.
Oui, bah oui, oui. Puis alors, c'est très actuel, mais on va pas parler politique ici. On va parler moto.
Enfin, vous avez un avis là qui va gagner l'autre là.
Moi, j'ai écouté. Comment il s'appelle des journalistes.
Il n'y a plus Jean-Yves. Hein,
oui, mais
c'est trompette. Mais...
on en reparle dans un mois.
C'est une catastrophe mondiale.
Une parenthèse, bon, on est quand même citoyen, on est moteur, mais on a aussi. C'est quand même incroyable ce qui se passe là-bas. Les propos que ces gens-là, ce que ces présidents, ils s'insultent.
Les Harley et les Indian vont encore coûter plus
cher. Oui, ça va coûter. Ils s'insultent copieusement.
Bon, alors, construire une moto pour se reconstruire. Et donc, deux photos assez étonnantes. D'ailleurs, la colorimétrie des photos.
À mon avis, tous ces gens-là votent pour Trump.
C'est fait exprès.
Donc, puis, sans déconner, pourquoi ils reconstruisent une Harley
Non, j'ai rien compris là. Moi aussi, je me suis posé la question.
Non, non, alors, attends, non, faisons les choses.
Il y a Turbo, il y a.
Ces gars-là, donc, ils sont là de leur propre initiative. On leur propose et eux adhèrent ou pas. Hein. Donc, on a proposé aux vétérans des guerres américains. Qui font partie donc d'une association qui leur permet de leur venir en aide, en somme, pilotée d'ailleurs par une infirmière hein, pour l'administration des vétérans, justement, qui se trouve être motarde, qui roule en Indian Scout. Et donc, elle a organisé pour la 15e fois le Motorcycle Mission, qui consiste à demander à des fabricants, des constructeurs, de donner de leur temps pour constituer des ateliers et faire découvrir finalement le monde de la moto aux volontaires. Et donc là, ils ont réuni une dizaine de volontaires. Alors, ça, elle a fait appel, alors moi j'avoue que je les connais pas, à Paul, qui tient visiblement un bouclard de Harley. Et c'est surtout lors d'une course, je recherche le nom de cette course, Bagger Nation, donc ça c'est le nom de la structure, à Sturgis Motorcycle Rally. Alors je sais pas si vous vous souvenez, les baggers de course.
Ouais, avec ouais. Sa coche.
Voilà.
Donc, c'est pas vraiment des... de course. Ce sont.
Elles sont préparées.
Oui, elles sont préparées. Ah, oui.
Ils arsouillent comme des.
Absolument. Comme des... Non, c'est... Donc, arsouillées avec des bagueurs. Des bagueurs.
Mais j'aurais vu que tu pourrais faire ça avec la Triomphe. avec ta Rocket 3, non
ouais, voilà. Non,
ça fait un peu bagueur aussi. C'est un gros. C'est du gros.
Je pourrais bien.
C'est comme du gros calibre, quand même.
Donc, l'idée, c'est de proposer à cette équipe de volontaires de se retrouver toutes les semaines. Donc 4 heures après le travail, hein, une fois par semaine, et de travailler sur une machine. Donc il y a une machine et surtout il y a le réseau amical, parce que tous ces fabricants de pièces et autres machines, là, vendeurs, sont eux-mêmes en réseau. Et donc il a fait un peu le marché, il a eu des dons de pièces qui lui ont permis donc d'entreprendre le démontage complet de cette moto. Alors, je cherche la référence de la moto. Ça me reviendra, c'est pas grave. Donc, elle a été démontée pour être remontée, considérablement modifiée, donc au plan mécanique.
Ah oui, non, mais, le châssis a été modifié.
Voilà.
L'acier, on l'a remodifié. Non, mais il y a des choses qui sont faites, hein, quand même.
Voilà. Donc, on est là sur un bagger performance. Et donc, voilà, je retrouve la moto. C'est une Harley Road Glide 2023. Sortie de concession, donc une moto neuve, pour lequel donc on est parti sur des modifications quand même profondes qui en ont fait une nouvelle moto. Donc c'est une action qui s'inscrit dans un programme de solidarité, une belle action donc que je vous propose de découvrir donc en page 100 et suivante de Moto Magazine de novembre. Alors, ça tombe bien, il me reste juste une demi-séquence pour vous parler des quelques motos qui sont présentées. Je vous ai dit, c'est la saison des salons, hein, Milan entre autres, et c'est à ce moment-là que les fabricants présentent leurs nouvelles machines. Et donc, j'ai relevé en page 32, si vous trouviez que la Triumph T120, elle manquait de peps, eh bien, ça tombe bien, dans les néo-rétro, Triumph nous sort la Speed Twin 1200, et si vous en voulez encore un peu plus, la 1200 RS. Hein, donc voilà, on retrouve le look effectivement néo-rétro de la T-Bonneville, la T120 Bonneville, mais avec évidemment des attributs qui lui donnent un peu plus de pêche et plus sportive. La même déclinaison dans une autre marque, la Ducat, la V4, alors la Multistrada V4, qui se décline en V4S et en V4 Pie Peak, qu'on connaît bien, hein, avec Christophe Marquis, qui s'était aligné sur cette course. Encore un clin d'œil au Stet. Alors là, on arrive quand même dans des machines, quand même. J'ai relevé qu'il y avait 70 capteurs sur la moto. Imaginez, ça en fait des sources de panne.
70 pannes,
70 capteurs. Ça fait au moins 300 connecteurs.
Alors,
sachant que c'est les connecteurs qui créent le plus vite.
La moto s'abaisse en dessous de 10 et elle reprend sa hauteur à 50 km/h.
Imaginez, il y a 30 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'on allait faire des systèmes comme ça, des motos qui s'abaissent et qui se remontent.
Oui, c'est surtout les motards de base, tu as dit, c'est des conneries,
ça sert à rien. Il y a 70 ans, il n'y avait pas de suspension.
Non, il n'y a pas de suspension, tu veux me dire.
Si, il y avait des suspensions il y a 70 ans. Pique, c'est avant-guerre.
Ah bon, avant-guerre.
Souviens-toi, Christophe, on avait fait cette rubrique utile ou futile. Alors, est-ce que vraiment c'est nécessaire ou alors c'est un gadget?
Bon, l'adaptation du niveau, tiens, toi qui roules souvent en duo chargé, hein, le nivellement de la machine automatique, quelle que soit la configuration, pilote passager bagage.
Oui,
c'est pas mal ça. C'est un peu comme les Citroën, quoi.
Oui, mais à quoi ça sert?
Le radar avant-arrière.
Alors c'est vraiment le truc.
L'angle mort.
Je sais pas, tu as ça, Jean-Yves, sur ta moto?
Même s'il y avait une option, je ne l'aurais pas pris.
Alors, c'est le genre de choses qui.
Tu rajoutes 5 000 euros là, au prix de la moto, qui en vaut déjà 21 000. Hein.
Au moins.
Et alors, après, la Pipix, donc là, on est à 32 790 euros. Bon, Bon, je continue mon petit inventaire. Le XADV, qui est quand même le scooter qui vient talonner effectivement le T-Max. J'ai eu l'occasion d'en essayer un. Là, ils viennent de changer la selle. C'est pas du luxe, hein, parce que c'était une planche en bois. Mais ceci dit, le scooter reste le même. Il y a le coloris qui change. La Kawa Versys 1000, c'est la moto de Philippe Guillaume, qui est une excellente routière. Avec un design un petit peu clivant, et ben, ils améliorent le moteur, mais le design est toujours aussi clivant. Donc ça, je vous laisserai apprécier. Hein, elle passe de 120 à 135 chevaux, donc un 4 cylindres. Honda, qui se met maintenant à faire des modèles à édition limitée, 70 exemplaires, 300 pour en France, 300 pour le monde. Alors un nom à dormir debout, la CBR1000RRRSP.
Bon. Slash WW.
Vous l'avez retenu. Hein. Alors, il y a du carbone à tout niveau pour gagner 1 kg sur la moto.
Dis donc,
hein, 32 000 euros. Ouais. Bon, voilà. Aprilia qui fait dans le même genre. Alors là, c'est sur commande. L'Extrema, 80 000 euros. Il faut verser la moitié à la commande. Bon, je sais plus combien il y en a.
Des KTM.
Il y en a qui sont faits, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, un comparatif de trail routier. Alors évidemment, l'Africa Twin, hein, qui est bonne dans tout, sans exceller en particulier, mais qui a une boîte auto, on reparlera de la boîte auto. La 900 Rally Pro de chez Triumph, hein, donc polyvalente, suréquipée, toujours bien finie. La KTM 890 Aventure, ready to race, et donc c'est celle qui effectivement est la plus apte, prêt pour courir. Et l'Outsider, la MV Augusta, bah, voilà que MV Augusta se fait mettre à faire des trails, tout comme d'ailleurs Ducati, hein, et donc qui sort l'Enduro Velos et qui a effectivement conquis les essayeurs. Et pour terminer, donc, les automatismes, on en avait parlé avec Honda, Yamaha s'y met et il a conquis nos essayeurs, même les plus rétifs, avec la YAMT.
Hein, pour, ça devient compliqué maintenant.
Yamaha, transmission manuelle automatique.
Ah ouais,
alors on rajoute des actuateurs qui commandent l'embrayage et qui passent les vitesses. Bientôt, on mettra sur les étagères les leviers d'embrayage.
Bon, comme les mecs qui mettent la radio sur leur moto parce qu'ils s'emmerdent sur leur moto.
Mais non, mais voilà. On va demander à FX, qu'est-ce qu'on pense à FX. C'est notre invité FX hein, aujourd'hui.
Bah, je pense que c'est très sophistiqué tout ça. Et effectivement, comme on a fait la remarque tout à l'heure, plus sophistiqué, plus que ça a la chance de tomber en panne. Et plus ça coûte cher.
Mais, t'es d'accord avec nous hein, parce que moi, j'ai rencontré des auditeurs, ils me disent bon, vous exagérez quand même, c'est bien cette technologie, ça améliore le confort, la conduite.
Yamaha l'explique.
Voilà, hein.
L'explique dans l'article.
Mais t'es d'accord avec nous que c'est vrai que c'est des sources de pain, c'est des sources de problèmes.
C'est comme
de
dans
soucis.
Les machines à laver,
l'automatisme,
la vaisselle, etc. plus qu'il y a de choses, plus que ça change de tomber en panne. Et quand ça tombe en panne, plus ça coûte cher.
C'est
l'automatisme, il y a 25 ans, effectivement, c'était pas un cadeau, hein, l'automatisme en France, hein, je parle. Mais c'était largement développé aux États-Unis et ailleurs. Et aujourd'hui, pratiquement, ils vendent plus de Goldwyn, par exemple, automatique que de Goldwyn à boîte manuelle.
Bon. C'est un peu la même tendance avec les voitures d'ailleurs.
Et d'ailleurs, on t'a pas demandé avec quelle moto tu roulais.
Non, c'est juste.
Et il le dira pas. Je ne peux pas le dire.
Voilà. CBR 1000.
CBR 1000.
Oui, j'en ai une deuxième pour le dimanche. On a pris là.
Ah oui, t'as une
boîte.
RSV4. La boîte manuelle.
Bon. Voilà,
c'est bon pour le Motomag, donc le 413 de novembre. Bon. Que vous retrouvez dans les bonnes librairies et dans les kiosques.
Voilà, très bien. On passe un morceau de musique et on se retrouve juste après.
Come and gone.
Bon, vous avez écouté la musique, là? Au lieu de parler, là, durant le... Hein,
ça enflamme.
Ça enflamme, ça.
Ah
hein,
ouais, ça
voilà.
Bouge.
Bon, bah, ben, ça va enflammer, parce que maintenant, c'est le tour à Jean-Yves.
Oh oui.
Voilà, Jean-Yves, on commence par quoi dans ce compte-rendu de la réunion du 12 octobre 2024?
On va d'abord aborder les points positifs. Et puis avec FX,
et ce qui fâche après,
séquence suivante. Ce qui fâche et ce qui est plus critiquable. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles pour cette réunion. C'est que, bon, au point de vue fonctionnement de la 59, il y a quand même un net développement. On est passé à 190 adhérents. Alors évidemment, moi, avec mon habitude de mettre des bémols, il n'y avait que 30 participants à peu près. Donc on fait le rapport 30 sur 190, mais je ne vais pas accabler le monde parce que moi-même je n'y étais pas, j'étais en Bretagne.
Ah, bah alors Jean-Yves.
Donc je ne peux pas être critique.
Voilà. Mais il y a quand même 190 adhérents.
Voilà. Qu'il y en avait 120 il y a 2 ans. Quoi. Bon, donc ce qui est positif, c'est que c'est un travail qui ne se voit pas. Mais il y a quand même beaucoup de mise en place de dialogue avec les instances dirigeantes de notre beau département. Hein. C'est-à-dire qu'on va quand même à des réunions de concertation entre administration et usagers. Et notamment, ce qui permet d'avoir des éclaircissements sur le CIF. Le CIF, bonne nouvelle pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est qu'il est prolongé jusqu'en décembre, fin décembre.
Le CIF, c'est pour avoir la possibilité de passer ton permis.
Circulation interfile.
Ah non, c'est le socle.
Bon, d'accord. Il y a vraiment des bases qui manquent.
C'était pour rire.
Oui, oui. On a bien rigolé.
Je vois qu'ils suivent, au moins, comme ça. Tu veux.
Une autre bonne nouvelle, c'est que la ZFE, finalement, ne se fera pas. Hein, ils se sont aperçus que effectivement c'est un ostracisme social sans nom et que il y a de quoi entraîner une révolution de
attention, ça se fera pas dehors. Ça c'est pas pour les véhicules ça va se faire pour des véhicules avant 94 ou 97.
Oui, pour les diesels.
Non mais même les voitures, même
oui,
voitures
oui,
essence.
Oui, oui,
et les motos.
Pour les diesels, il y a peu de motos en diesel, je reconnais.
Non mais les voitures essence, ils peuvent rouler ?
Oui.
Ah, d'accord.
Oui oui. Et puis de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui est encore intéressant, c'est que la voie de covoiturage, on va en expérimenter l'usage et apparemment là aussi, il va y avoir une concertation avec les deux roues pour leur permettre de rouler sur la voie de covoiturage. Donc ça, c'est des points positifs quand même. Et
parce que ça, c'est un problème pour l'interfile. Hein.
Ah, oui, oui.
Parce que quand on remonte en moto, quand on remonte des fils, on est limité à 50 km/h. Mais sur la voie de covoiturage, les voitures, eux, peuvent rouler à
70.
Hein. Donc toi, tu remontes à 50 et tu te fais doubler par des voitures qui roulent à 70. Voilà. Tu t'en doubles qui roulent à 30... Toi, tu roules à 50 et sur la gauche...
Je répète que c'est un point positif parce qu'il va y avoir une concertation avec les motards et entre les administrations et les motards. Chose qui n'était pas garantie. Alors, le problème aussi, c'est que la 59 s'est enfin aperçue que son gros problème, c'est la com. Donc c'est pour ça qu'ils avaient fait une section jeune, histoire de jeunes motards, parce que les jeunes motards sont censés être largement plus doués que nous au point de vue com et utilisation des réseaux sociaux. Et donc il va y avoir aussi un appel à volontaires pour favoriser la com ou des spécialistes en com pour améliorer la com de la... Donc c'est une volonté clairement établie de la 59. Un autre truc, c'est pas la com, c'est les salons de. Là aussi, on s'est aperçu que pour la com, c'est une subdivision. C'est que plus la 59 participe à des salons, à des événements, et plus elle a de chance de toucher les gens. Et donc là aussi, il va y avoir un effort. volonté de justement participer le plus possible à des efforts.
Donc en 2025, on va voir plus souvent la FEDE dans les événements ici, dans les Hauts-de-France.
Du Nord. Surtout que des événements, il va y avoir le Salon
de la Seine,
etc. etc. Ouais. Donc, Douai, il va se renouveler aussi. Donc c'était pour les points positifs. Donc là, la place à un morceau de musique.
On va avoir une sacrée année 2025, hein, parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire.
Il y aura beaucoup de boulot à faire, oui, effectivement.
Voilà. Très bien. Allez, on passe à un morceau de musique, et après, on va passer à ce qui fâche.
Le côté contrôle.
On va enflammer. Oui, Christophe.
Non, j'ai rien à dire.
et donc, le côté enflammé. Hein, voilà. Allez, à tout de suite. Je suis désolé Jean-Yves, mais le côté qui fâche, on fera après cette séquence là, parce qu'on a notre ami Patrice qui est dans sa voiture. Voilà, vous l'avez entendu. Patrice, alors voilà, ouais. il va nous livrer son expérience sur la restauration d'un scooter, Mobi Scooter,
voilà,
de Montoconfort de 1955.
Tout à fait. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Voilà, parfait, t'es en ligne, c'est super. Écoute, on s'est rencontrés à l'anniversaire du Team Rabbit et j'ai vu que tu démarrais un scooter sorti de grange, hein, on peut le dire comme ça.
C'est ça.
Qui ressemblait étrangement au Vespa ou au Lambretta dont on a toute l'image en tête, mais qui était français. Alors, explique-nous un peu l'histoire de cette acquisition. Pourquoi tu t'es intéressé à ce matériel et comment tu l'as acheté ?
Alors, ça a commencé parce que moi, j'ai moi-même une D45, une moto bécane D45, de 1952.
Ouais.
C'est Jean-Yves qui parle.
Jean-Yves. On n'est pas, ouais, pas seul.
C'était ma première moto.
C'est des connaisseurs en moto.
Porte-parole de la Fédé. Hein.
En moto bécane, voilà. Vas-y.
Et donc, moto qui marche pas trop mal. Et puis, je voulais quelque chose pour mon épouse, en fait. Pour qu'elle puisse m'accompagner dans les balades.
D'accord.
Sans trop te dépasser.
Pardon ? j'ai pas compris.
Non, vas-y, continue.
Donc, en fait, c'était pour qu'on fasse une balade, enfin, des balades ensemble, quoi, tout simplement. Et donc, j'ai regardé un peu sur le Bon Coin ce qui se faisait, tout ça, et j'ai vu ce Mobi Scooter.
D'accord.
C'est un scooter français, de marque Moto Confort, donc Moto Bécane, hein, c'est pareil.
Voilà.
Et qui est quand même moins courant que les Lambretta, les Vespa et autres.
D'accord. Et était dans son jus, non tournant.
Non tournant, dans son jus, mais complet.
D'accord.
Complet, moteur non bloqué.
T'es allé le chercher où ?
Donc il était à Pau.
À Pau ?
À Pau, ouais.
Ah oui. Tu simplifies la vie, hein, dis donc.
Ah bah, et donc moi je fais confiance aux gens, hein, donc j'ai appelé le vendeur, j'ai sympathisé, enfin on a bien discuté, ça passait bien, il y avait un bon feeling, donc voilà, je suis même pas allé le voir.
Et t'as organisé tes vacances en conséquence ?
Comment pas t'as du fait tout. J'ai fait appel à un transporteur qui est allé me le chercher et qui me l'a ramené à la maison.
D'accord, bah oui.
Et donc voilà, il est arrivé à la maison, c'était mi-novembre 2023 donc.
D'accord.
Et puis, bon, j'étais pas déçu de ce que ça correspondait aux photos, tout ça, donc c'était pas mal.
Ouais.
Bon, sauf que, bah, évidemment, sortie de grange, ça veut dire qu'il n'a pas tourné depuis très longtemps. Alors comme c'est un Mobi Scooter qui n'est pas immatriculé, on peut... je sais pas trop depuis combien de temps il avait pas tourné, mais à mon avis, ça faisait quand même quelques...
Il n'y a pas de carte grise.
Donc, non, pas de carte grise.
Ah ouais.
Bon, ah
ça, hein. On a les juristes de la FFMC qui vont se pencher sur le sujet. Non, t'inquiète pas. Non,
il n'y a pas de sujet. Hein. Moi, j'ai fait la déclaration FFVE, j'ai eu mon attestation.
Ouais.
Là, je vais faire ma demande à l'NTS avec l'attestation FFVE, et puis je rajoute un contrôle technique, et puis c'est parti. Hein.
Voilà. Alors,
bon espoir.
Explique-nous ta démarche de sortie de grange et de remise en route. Parce que bon, on ne peut pas encore parler de restauration, mais il tourne. Et là, tu balades avec.
Bah, je fais quelques... J'ai pas le droit de le dire, mais je fais quelques kilomètres avec.
Oui.
Puisqu'il n'est pas immatriculé.
Il n'y a personne qui nous écoute.
Bon, il n'y a personne qui écoute.
Donc, alors, mais comment tu t'y es pris ? Parce que on en a discuté quand on s'était vu, là. T'es un peu comme moi, t'as deux mains gauches, quoi.
C'est ça. Aucune connaissance mécanique.
Ah oui, si t'as pas de connaissance mécanique, alors.
C'est un challenge, hein. Il faut se donner des challenges, hein. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai mon Mobi Scoot, que je trouve qu'il est pas trop mal, qui est même sympa, je dis, bah tiens, maintenant, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me donner un coup de main pour le remettre en route. Et en discutant avec un copain de course à pied qui me dit, qui est motard, et qui me dit, bah moi, j'adhère à l'atelier à Illy, le Team Rabbit Moto. Ils sont sympas et en plus, ils mettent à disposition des outils et surtout des connaissances. Alors, je dis, ah bon, ok, je vais prendre contact. Donc, j'ai appelé Lionel, le président de l'atelier. Et voilà, et il m'a accueilli à bras ouverts. Le challenge ne lui faisait pas peur, quoi. Donc, voilà, je suis arrivé chez eux, on va dire au mois de mars. Ouais. Début mars de cette année. Hein,
oui, je rappelle qu'on s'est vu en octobre et qu'il tournait déjà depuis quelques temps. Hein. Sa première sortie, ça remonte à quand alors ?
Alors, son premier cri, comme on va dire.
Oui, il a fallu le démarrer déjà.
Ouais, voilà. Son premier démarrage, c'est pas compliqué, c'est le 4 avril 2024. C'est la Saint-Isidore.
Ah, oui. Voilà. Très bien.
Donc, du coup, Du coup, je l'appelle Isidore, voilà. Je lui ai donné un nom, c'est Isidore. Voilà.
Et quand il arrive à l'atelier du Team Rabbit, là, quel diagnostic tu fais il faut des pièces, il faut...
L'électricité... Les gars, moi, le diagnostic, j'en fais pas, hein, je laisse les autres le faire pour moi. Hein. Donc ils m'ont dit, non, écoute, on va nettoyer le carburateur, on va nettoyer le réservoir, et puis on va voir ce qu'ils donnent. C'est ce qu'on a fait, hein, puisque eux, ils me donnent que les... Il me donne les conseils et c'est moi qui fais. Hein.
C'est le principe de l'atelier.
C'est comme ça que je voudrais que ça aille. Hein.
Absolument.
C'est un deux temps. Voilà. C'est un deux temps, Jean-Yves.
C'est un deux temps.
Ouais, 124 cc.
Un deux temps de 125 cm3.
Voilà. Hein. Ah, d'accord.
Bon, ça marche pas mal. Hein.
Ouais. 5 chevaux.
Donc tu l'as remis en route assez vite, finalement. Entre le moment où il rentre à l'atelier.
En un mois, le temps. En fait, on a tout nettoyé. C'est surtout ça. On a tout nettoyé. On a remis on l'a remis en route, il a redémarré très facilement, on va dire. Je veux dire les deux ou troisième coup de clic.
Bon, oui, clic un coup,
voilà. Donc là, c'était pas qu'un coup, c'était 3-4 coups.
Ah bah oui, c'est bien. Hein,
On est tolérant.
Hein. Ouais, oui, on est tolérant.
Et alors, la corrosion a pas trop fait son travail parce que c'est tout ça, c'est en tôle.
Ouais, c'est de la tôle, mais c'est ça qui fait pour moi son charme, c'est qu'il est dans son jus. Il y a un vécu, quoi, voilà.
D'accord. Et alors, Donc là,
maintenant, je vais le fiabiliser, maintenant qu'il roule. Je vais le fiabiliser, je vais changer ses pneus, je vais changer les gaines et les câbles, freins et puis embrayage, tout ça. Je vais le laisser dans son jus, voilà.
Très bien.
Je vais lui mettre un vernis pour pas qu'il rouille de plus, mais il va rester comme il est.
Le Rustol, c'est super. Hein.
Voilà. Il y a un produit Restom qui marche
aussi,
pas
oui,
mal.
Tout à fait.
Ouais.
Bon.
J'ai déjà repéré le produit et tout.
Tu nous as dit en entrée de séquence que c'était pour madame. Pour l'instant, c'est toi qui en profite.
Bah ouais. Hein.
Est-ce qu'elle a le permis d'abord?
C'est un 125, Jean-Yves.
C'est un 125.
On a la voiture.
On a 50 ans, donc on a le droit de rouler. Avec notre permis, on avait le petit tampon qui va bien pour pouvoir rouler en 125.
Et il n'y a pas de boîte automatique là, hein, parce qu'on a parlé de boîte automatique dans la séquence juste avant.
Il n'y a rien. Là, pas de capteur, rien.
Il faut passer. Il y a quoi? Il y a trois vitesses.
Il y a trois vitesses, ouais.
À la poignée.
À la poignée. La poignée gauche, ouais.
Bon. Et alors, t'as d'autres challenges dans le carton ou pas?
Ah bah non, je vais d'abord finir celui-là, bien le restaurer, puis après, non, je n'ai pas d'autres... au fur et à mesure. Hein.
Ok.
Au fur et à mesure des rencontres sur le Bon Coin ou sur les expositions, hein, des fois, des choses sympas qui se présentent. Hein.
Bon, bah écoute, on te souhaite encore beaucoup de kilomètres en Mobi Scooter Motoconfort.
Voilà,
je rappelle qu'il est dans sa 70e année.
70 ans, tu vois. Il a une histoire.
C'est quasiment plus âgé que nous tous ici.
Alors, si vous voulez voir un peu ce que c'est qu'un Mobi Scooter, vous allez sur Internet et puis vous faites Mobi Scooter Motoconfort. Voilà.
Merci Patrice de ton partage et bonne route.
Merci.
Allez. À bientôt.
Bon week-end à tous.
Salut.
Salut. We'll be right back.
Voilà, alors ça va mettre de l'ambiance et c'est, ça tombe bien parce qu'on va revenir sur ce compte-rendu de la réunion hein, de la FEDE du 12 octobre 2024, Jean-Yves.
Oui. Alors, y a,
alors, le côté qui fâche, là.
Il y a eu un gros point d'achoppement, oui. C'est sur la position de la 59 par rapport au contrôle technique. Alors,
alors c'est pour ça qu'on a invité notre ami FX, que tout le monde connaît donc, ici dans la région du Nord, FX.
Philippe Motion a tendance à dire que bon, ben, le contrôle technique, c'est plus la peine de se battre contre puisqu'il est là. C'est pas forcément l'opinion de l'assistance et donc c'est pour ça que FX est là. Pour nous causer de son point de vue.
Alors, il y a FX hein, qui est présent dans les studios ici. On a aussi au téléphone, alors là, bah, parité oblige, une motarde qui nous écoute actuellement. Hein. On va lui passer la parole juste après. FX, vas-y, tu commences.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, la discussion qu'on a eue était relativement animée dans la mesure où pas mal de choses ont été... Ah, excusez-moi.
On t'avait dit de couper le téléphone.
pas mal de choses contradictoires ont été effectivement dites et les gens ont été farouchement opposés à certains arguments qui nous avaient été proposés, à savoir excusez-moi parce que j'ai perdu un petit peu le fil avec le coup de téléphone inopportun.
Respire, t'inquiète.
Oui, alors l'intervenant principal, en fait, ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres, c'est le fait qu'il y ait eu une personne qui fasse partie donc, du mouvement contrôle technique, hein, un contrôleur précisément, et auquel certaines questions ont pu être posées, comme par exemple si on apportait une modification au contrôle technique actuel et qu'on proposait aux gens uniquement un contrôle technique lors de la revente
comme en Belgique.
Des motos, comme, oui. Un peu comme en Belgique. Oui. Qui paraît être une bonne solution et de bon sens, bah lui, il prétend que finalement, son modèle économique ne lui permettrait pas ce genre de choses. Alors, oui. Question, comment font-ils en Belgique, alors ?
Il y a comment un argument qui est un général, qui est « connais ton ennemi ». Donc, je ne suis pas contre la venue d'un contrôleur technique, justement, pour savoir son point de vue.
Bon, alors, moi, je trouve que c'était gonflé d'inviter un contrôleur technique lors de cette réunion. Oui, c'était déjà baisser les armes et dire, ben voilà, maintenant, le contrôle technique, il est passé, ben, alors, on va accepter la chose. Et puis, voilà.
Alors, effectivement,
alors, moi, d'ailleurs, on ne veut pas dans le sens du national. Hein,
ah oui,
dans
le Nord, exactement, hein. Ça c'est... Le national continue à lutter.
Quand on lit
contre.
Motomag, c'est pas du tout ça qui est prévu.
Et,
hein.
Et d'ailleurs, il y a un recours auprès du Conseil d'État contre le contrôle technique. Mais je veux dire que là, le point de discussion, c'est justement la dissension entre 59 et national.
Je reprends encore une autre phrase. Hein. Une idée, est-ce que la FFMC peut signaler les bons centres Non mais attends, quoi, alors on va où là
ce centre-là
non,
est pourri,
on n'accepte pas la chose. On n'accepte pas la chose. FX, vas-y.
Quelque part, effectivement, c'est un non-sens. Comment on peut distribuer des bons points et des mauvais points en disant qu'il y a des bons centres et des mauvais centres?
Quand ça tu vends une moto, tu es bien obligé d'avoir un contrôle technique.
Ça suffirait que les choses ne seraient pas équitables et qu'il y aurait une certaine collusion.
On va passer la parole à notre auditrice motarde.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Christine qui était présente aussi. Alors, tu as entendu la conversation un peu,
conversation. Donc vous avez pas mal exprimé ce que j'ai ressenti au cours de cette réunion. En fait, ça a été pour moi une très grande surprise des propos hein, du président de la FFMC 59 par rapport à ce contrôle technique, des propos qui me semblaient dire « bon, maintenant, le contrôle technique est en place, on ne peut plus revenir dessus, donc passons à autre chose ». Voilà. Alors, je ne reconnais plus du tout le combat, le côté combatif de la FFMC 59, hein, avec des leaders qui avaient envie vraiment de se battre, d'avancer, et surtout ne pas lâcher prise. Donc, j'ai été fort déçue, car moi-même, je me suis mobilisée dès le début de ce combat, et maintenant que c'est acté, il faudrait laisser continuer les aspirateurs, je dirais bien, de notre argent, et puis qu'ils s'en mettent plein les poches. Donc moi, le combat, même s'il se fait à moins de personnes, il faut le maintenir, car oui, certains se lassent, mais d'autres peuvent continuer à prendre le relais. Voilà ce que j'avais à dire sur ce que j'ai entendu à la réunion, et puis ce côté décevant de ce président qui m'a vraiment déçue. Voilà.
Très bien, merci Christine. Mais écoute, je pense que là, t'as mis un peu.
Tu l'as rhabillé pour l'hiver.
Bon, c'est pas grave. Fait,
voilà.
D'autant plus qu'il a été dit que.
Ouais, moi, je pense aussi que tu as raison. Hein.
Sur le fond, elle a parfaitement raison. Voilà. Et il a été annoncé en fait que la principale cause de défaut annoncé, c'était les freins, les pneus lisses et des défauts d'éclairage, principalement.
Mais attends, quand on prend une moto, je suis désolée, on est conscient en tant que motard que notre moto, elle doit. Être super bon
oui, tout à fait. Et moi, je pense qu'effectivement, naïvement, on ne va pas se présenter quand même au contrôle technique en venant exprès avec des pneus lisses,
c'est pas exprès, ça ne s'allume pas, etc.
Enfin,
c'est que le motard actuel, c'est un consommateur de moto, c'est plus un motard. Sa moto, il ne la regarde pas. Il est incapable de dire si, à la vue simplement, si ses pneus sont sous-gonflés, etc. etc. C'est... Non, non, justement, c'est le monde moto qui a changé aussi.
Après, il y a des disparités entre les motards effectivement, qui ont leur permis et ceux qui ne l'ont pas, comme ceux qui disposent des scooters ou bien des 125. Et là, il y a une différence notable. On voit que cette population est beaucoup plus négligente.
Quand on regarde les chiffres dans Motomax, c'est 10% simplement des contre-visites.
Il y a quand même 10% de cons qui viennent au contrôle technique avec un truc pourri.
Il y a beaucoup de désinformation parce que dans certains chiffres également, ils n'hésitent pas à mettre et inclure les petites voiturettes sans permis. Où là, manifestement, les chiffres sont catastrophiques. Oui. Alors forcément, au global, quand on met tout dans une moyenne, effectivement, eh ben forcément, ça tire vers le bas. Alors qu'en fait, si on exclut les motos et qu'on regarde vraiment les motos à proprement parler, les chiffres sont bien meilleurs et on s'aperçoit que le parc est relativement bien entretenu.
Et si on revient un petit peu sur les chiffres, la personne qui était là, hein, qui a investi dans un centre contrôle technique, dit tout simplement que lui, c'est 50% des véhicules qui sont en tort. Oui, ça me paraît bizarre parce qu'on dit 10%,
beaucoup, oui.
ça, 10% en moyenne nationale. Et puis là, il dit ici dans la région, c'est 50%.
Mais encore une fois, je parie qu'il fait la moyenne sur l'ensemble des qu'il vérifie, donc les voiturettes, les scooters et autres. Et donc, effectivement, il peut arriver à 50% parce que ces gens-là ne font pas gaffe à leurs moyens de locomotion.
Alors, dans le compte-rendu de cette réunion, hein, le seul nom au CT est un combat d'arrière-garde. Alors, ça, il fixe...
Ça se fait bouillir.
Oui.
Est-ce que notre motard est encore au téléphone?
Oui, je suis encore au téléphone, mais je vais vous laisser.
Oui.
Continuer ce combat parce que je serai aussi derrière vous.
Merci d'avoir appelé. Hein.
Merci.
Voilà. Effectivement, on perçoit chez certains d'entre nous, surtout auprès des plus jeunes, ils pensent véritablement que tout est plié, qu'il n'y a plus rien à faire. Or, pour moi, je pense qu'il faut continuer la lutte, il n'y a pas de raison. Ça fait des années et des années que la FFMC défend l'approbation du contrôle technique. Et finalement, je pense qu'effectivement, si on ne se bat pas, ça va être un petit peu comme dans les années 80. Hein, si personne ne s'était battu, la mutuelle des motards n'aurait jamais existé et la vignette aurait été instaurée. Donc j'invite tous les auditeurs à rejoindre le mouvement de la FFMC, car plus nombreux, plus forts, et plus haut sera notre voix et nos revendications.
Et puis la base peut influer sur les comportements du coordinateur.
Absolument.
Alors, on peut aussi parler de l'évolution du contrôle technique. Hein. C'est éventuellement faire un contrôle technique rien que pour la revente. La revente de la moto.
Comme c'est
en Belgique.
Je ferai remarquer qu'en Belgique, les contrôleurs aussi ne connaissent rien aux motos. Hein, parce qu'ils ont réussi à blackbouler une BM 1250 qui sortait quasiment de concession. Donc, le problème, c'est la formation de ces contrôleurs. Moi, j'ai assisté à un contrôle technique. Franchement, le mec, il n'y connaissait rien en moto. Hein.
Voilà. Donc la fin, ça se termine comme ça. Hein. Donc les enjeux. Alors pour ça, c'est pour le président de la fédération du Nord.
Il est rhabillé pour l'hiver.
Aujourd'hui, les enjeux pour le monde du deux roues, c'est d'étendre notre droit à la mobilité en sécurité. Ça, ok, on est d'accord. Hein, mais il n'y a pas que les motards qui peuvent améliorer cette sécurité. C'est l'ensemble des usagers.
Oui, un truc aussi très important dont on n'a pas parlé, c'est le partage de la route. Là aussi, tout comme dans une manif, les mecs font des wheelings et des stoppies, en fait, ils donnent une très mauvaise image du marque du motard. Le partage de la route, tout le monde a le droit d'être sur la route. Et donc, si vous êtes aimable et bienveillant, vous rehaussez l'image de la moto.
Alors, on va revenir une heure et demie en arrière. Hein, on remonte dans le temps. On parlait de l'édito de Pierre Orluc. Rien ne va plus sur la route, voilà. Parce que plus personne ne respecte et tout le monde s'en fout de l'autre. Et ça, c'est bien le gros problème.
Exactement.
Voilà, FX,
oui.
C'est terminé parce qu'il reste 2 minutes de générique, on peut pas aller jusqu'au bout. Hein.
Absolument.
Merci d'être venu et puis d'avoir peut-être expliqué. Donc, sur les ondes de campus et dans le magazine de la moto, tu tiens un coup d'étoile. Voilà.
La lutte continue.
Voilà, merci Christophe. Au mois prochain.
On se revoit le mois prochain.
Ouais, le mois prochain.
Et je vous annonce dimanche prochain à 21h, 2 films, La Grande Vadrouille et La Grande Évasion.
Oh, c'est super, là,
sur France 2,
la moto.
Et Arte. Et il y a de la moto.
Mais on les a jamais vus, ces films. Hein.
Ouais,
c'est une première.
Ils viennent de sortir.
La TR6 de Steve McQueen.
Ah oui,
maquillée en BMW.
Il y a un truc à dire.
Elle était quand même dans notre calendrier.
Oui. Et merci Jean-Yves pour la queue de la Fédé,
hein,
au mois prochain.
Et pensez à vous inscrire à la FDM.
Ah oui, à la FDM aussi. Et on remercie notre technicien Laurent pour alors là, la technique du millionième de millimètre. Hein.
Aux petits oignons.
Aux petits oignons.
Dites
billard. Voilà. Allez, bon dimanche et nous on se retrouve dimanche prochain à 11h sur les ondes de campus. Salut.